VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Dakar, midi à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Guinée, la population dans l'attente des premiers résultats après un scrutin présidentiel sous tension dimanche, mais sans incident majeur. Le principal problème, des anomalies dans un certain nombre de bureaux de vote. L'une des porte-parole du chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo, a dénoncé, je cite, « de graves irrégularités et des fraudes massives directement constatées sur le terrain ». Fin de citation. Déjà samedi soir, M. Diallo déclarait à la Voix de l'Amérique.
Si les résultats proclamés par la CENI ou par la Cour suprême ne reflètent pas la vérité des urnes, on ne l'acceptera pas.
Comment se sont passées les élections en Guinée? Le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Pas la peine. Daouda nous montre sa carte d'électeur, mais il dit n'avoir pas retrouvé son nom sur la liste.
Je dois voter ici, dans le bureau de vote numéro 002, mais je ne retrouve pas mon nom dans la liste qui est envoyée.
D'autres anomalies ont été constatées dans plusieurs bureaux de vote, comme le témoigne Frank Engel, chef de mission d'observation de l'Union européenne.
Il y a eu des problèmes ponctuels, pourtant généralisés, des retards dans l'ouverture, du matériel qui manquait, des procédures de vote qui se sont engagées lentement, mais qu'à la fin du compte, cela n'a pas empêché les électeurs à se présenter relativement en masse.
Pour corriger les anomalies, la Commission électorale nationale indépendante a fait voter au-delà de 18h, heure de fermeture, mais dans les bureaux de vote ayant démarré les opérations en retard. Les Guinéens choisissent leur président de la République parmi 8 candidats, dont Alpha Condé, le président sortant. Les résultats provisoires seront connus dans quelques jours et la Cour constitutionnelle a 8 jours pour publier les résultats définitifs. Conakry, Zakaria Kamara, pour la Voix de l'Amérique.
Quelles vont être les retombées des irrégularités constatées pendant les présidentielles de dimanche? La réponse du politologue et juriste guinéen Nema François Chérif au micro d'Éric Manirakiza.
Je peux oser vous dire que ces élections seront plus ou moins crédibles et transparentes. Pour des raisons, ici à Conakry, et même qu'à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, dans les ambassades, il y a eu quelques anomalies, généralement liées à toutes les élections dans les pays pauvres comme la Guinée. C'est tous les pays qui sont en train de renforcer leur culture démocratique, surtout en matière électorale. Donc ces élections, je crois bien que les résultats seront acceptés par tous. À la minute, aucun des leaders n'a dénoncé des fraudes massives, genre entraînant la crédibilité et la transparence du scrutin.
Apparemment, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté.
Exactement. Ce que je reprochais aux opposants dans leur entièreté, que les opposants sont restés à donner des discours de doute si oui ou non ils devraient participer au scrutin. Ce qui a empêché la plupart des titans de leur parti d'aller retirer leur carte d'électeur. Donc aujourd'hui, j'ai parlé avec beaucoup de potentiels électeurs qui n'ont pas pu voter puisque il n'était pas sûr si ou non il devrait y avoir le vote. Très tard, le principal opposant, c'est Dalein Diallo, avait demandé à ses militants d'aller retirer rapidement la carte d'électeur.
Avec les anomalies qui ont été observées, est-ce que l'on peut dire que la présidentielle a été organisée dans la précipitation, que la CENI était prête?
Je dirais que la CENI, techniquement, n'était pas prête, mais il fallait aller aux élections.
Est-ce que vous pensez qu'un candidat peut gagner dès le premier tour si vous analysez ce qui se passe en Guinée?
Depuis l'élection du président Alpha Condé à la tête de l'État, a connu beaucoup de violence. À Djibouti, à Sahoro, la liste est longue. Donc cette population est très, très réticente quand il s'agit d'appel du président Alpha Condé pour un deuxième tour. Aujourd'hui, on peut tirer une conclusion avec ce que j'ai vu, les électeurs que j'ai demandé, des amis qui ont voté, pour dire qu'il nous faut obligatoirement un deuxième tour.
Le politologue Nema François Chérif, joint à Conakry par Éric Manirakiza. Au Mali, évasion au camp de la gendarmerie de Bamako ce week-end. Les 9 évadés, dont 7 militaires, ont pris le large avec 2 véhicules, une moto et un pistolet mitrailleur. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette évasion est l'œuvre de 7 militaires, un inspecteur de police et un civil, parmi lesquels 3 sous mandat de dépôt de juge d'instruction dans l'affaire des tentatives de coup d'État du mois de juillet 2014. À ceci s'ajoutent 4 ex-éléments de la junte de Kati. Le 9e se nomme Boubacar Touré. Civil, il est poursuivi pour une évasion du 13e arrondissement de police de Bamako. L'écoute de l'inspecteur de police Ousmane Fane, qui n'a pas voulu s'évader, a révélé que les intéressés ont bénéficié d'une aide extérieure qui leur a permis d'obtenir une barre de fer pour forcer les cadenas de la cellule et obtenir une arme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RCA, toujours pas de bilan 48 heures après l'attaque des forces internationales contre une colonne d'ex-combattants de la Séléka, aux environs de Sibut, à 160 km au nord de Bangui. Le point avec notre correspondant dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
Selon les autorités préfectorales de la Kémo, il est encore difficile de fournir un bilan des combats qui ont eu lieu aux alentours de Sibut, car jusqu'en début de soirée de ce dimanche, les opérations se poursuivaient. Certaines sources parlent d'importants dégâts humains et matériels dans le rang des miliciens de la Séléka qui tenaient à marcher samedi sur Bangui. À Bangui, le gouvernement se félicite de cette opération. Son porte-parole, Dominique Saïd Pagindi, annonce que c'est un message fort envoyé aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays.
Ceci est un message clair qui est envoyé en direction des groupes armés pour leur dire qu'aujourd'hui, l'équilibre de la force n'est pas en leur faveur et qu'ils ont plutôt intérêt à revenir autour de la table de négociation pour privilégier des solutions politiques, des solutions apaisées.
Entre-temps, la vaste concertation de la présidente de la transition avec toutes les forces vives de la nation, dont l'ouverture prévue ce lundi, risque de ne rien donner. Le Fonds populaire pour la renaissance de son trafic, branche de l'ex-Séléka, ainsi que certains partis et associations politiques, ont ouvertement annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces pourparlers. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La lutte contre Boko Haram au Cameroun, double attentat suicide dans l'extrême nord du pays qui a fait au moins 9 morts dimanche au lendemain de 3 explosions au Tchad voisin dont le bilan serait de 37 morts et 50 blessés. Eric Manirakiza.
Quelques heures à peine après les attentats sur les bords du lac Tchad, les islamistes ont frappé de nouveau, non loin de là, mais cette fois au Cameroun. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dans le village d'Okangaleri dans la province de l'extrême nord. Selon un responsable local, la première femme a tué 9 personnes, tandis que la seconde s'est fait exploser seule sans faire de mort, a expliqué ce dernier. Il s'agit des 14e et 15e attentats suicides dans l'extrême nord du Cameroun depuis juillet. Plus de 100 personnes ont péri dans ces attentats attribués aux islamistes nigérians.
Au Congo-Brazzaville, les partisans du changement de constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir après la fin de son second mandat ont manifesté ce week-end dans la capitale en faveur du référendum constitutionnel prévu le 25 octobre. Des précisions avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Selon la police, plus de 100 000 personnes se sont rendues au boulevard de Brazzaville pour soutenir l'idée du référendum constitutionnel qui aura lieu le 25 octobre prochain. Pour ses pros, Sassou Nguesso, une nouvelle république est aujourd'hui nécessaire pour le développement du Congo. Pierre Mabiala sur les motivations juridiques d'un tel projet. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Rwanda, Franck Habineza, leader du Parti démocratique vieur d'opposition, annonce son intention de demander publiquement au président Paul Kagame de ne pas violer la Constitution en briguant un troisième mandat. La haute cour rwandaise a débouté récemment le Parti vert dans ses efforts pour bloquer le projet d'amendement constitutionnel mettant fin à la limitation des mandats présidentiels à 2 seulement, ce qui pourrait ouvrir la voie à un autre mandat pour le président Kagame à l'expiration de son deuxième en 2017. D'où la décision de Franck Habineza de fait appel directement au chef de l'État rwandais pour obtenir son refus officiel d'un nouveau mandat. Le leader du Parti démocratique vert cite à titre d'argument l'opposition de Washington au changement de constitution visant à permettre au chef d'État de se maintenir au pouvoir. Et enfin, plus de deux semaines après la bousculade de Mina pendant le pèlerinage annuel de la Mecque, le bilan des victimes s'élevait dimanche à au moins 1501 morts, selon les chiffres donnés par une trentaine de pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.